Au cours des années, nous faisons tous la connaissance de toutes sortes de gens. Si la plupart sont, disons, ordinaires, il en est d'autres qui sont différents, bizarres, mais attachants quand même. Dans les pages des textes sacrés, on rencontre aussi des personnages très colorés. Curieusement, ils ont souvent la vocation de prophètes de l'Éternel. De ce nombre est Jonas, qui est un être pittoresque et contradictoire, ce qui lui a valu de vivre un cauchemar et de se retrouver à l'intérieur d'un animal aquatique. Jonas ne manque pas de courage et il a de la suite dans les idées. Après avoir essayé en vain de désobéir à l'ordre de mission que l'Éternel lui avait confié, voilà maintenant qu'il a le culot de reprocher à Dieu sa miséricorde envers les habitants de Ninive. Contre toute espérance, il espère encore que Dieu va changer d'avis et exterminer les Assyriens pour leurs péchés. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre de Jonas. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Verset 2. Tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, est une confession de foi israélite que l'on retrouve souvent dans d'autres textes. On se rend compte que Jonas avait une très bonne compréhension du caractère de l'Éternel, son patron. Il connaissait bien Dieu et comment il agit. Il savait qu'il menace les mécréants afin de susciter en eux la repentance dans le but de pouvoir leur pardonner. Il savait donc que si les Assyriens se repentaient, Dieu leur ferait grâce et cette perspective le rendait malade à mourir. L'expression « tu renonces volontiers aux menaces que tu profères » ne se rencontre ailleurs que dans le livre de Joël, qui est antérieur à celui de Jonas. L'auteur a voulu renvoyer ses lecteurs israélites à ce prophète pour les faire réfléchir. Voudrait-il vraiment refuser aux habitants de Ninive le pardon et la grâce de Dieu dont ils ont eux-mêmes bénéficié au temps de Joël? Je continue le texte. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Verset 3. Tandis qu'il était en train de boire la tasse, Jonas a supplié Dieu de le sauver, puis l'a remercié de l'avoir secouru. Mais maintenant il veut mourir. Il faudrait quand même savoir, veut-il vivre ou veut-il mourir? En fait, Jonas dit préférer mourir que de voir son Dieu faire grâce aux habitants de Ninive. Sa haine pour les Assyriens se retourne contre lui et le mène à vouloir mourir. J'ai connu plusieurs personnes un peu comme Jonas. Quand quelqu'un est pris d'un accès de haine qu'il ne peut ni assouvir, ni assumer, ni exprimer, il peut en venir au suicide. Jonas n'est pas le premier prophète à demander la mort. Élie a fait de même. Je lis le passage. Élie s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie voulait mourir parce que sa prédication ne portait aucun fruit. Malgré tous ses efforts, les Israélites refusaient de l'écouter et de renoncer à leurs pratiques idolâtres. Devant une foule attentive, Élie avait mené un rude combat contre tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Après les avoir vaincus, il les avait fait exécuter en accord avec la loi de Moïse. Mais quand il a su que la reine, une vipère du nom de Jézabel, avait juré d'avoir sa peau, il a paniqué et a commencé à courir depuis le mont Carmel, où se trouve aujourd'hui le port de Haïfa, jusqu'au sud dans le territoire de Juda. il a laissé son serviteur à Beersheba, la plus grande ville du désert du Négev, puis a continué seul dans le désert jusqu'à ce qu'il s'effondre à l'ombre d'un genêt. Épuisé, physiquement et mentalement, il a demandé la mort. Contrairement à Élie, Jonas veut mourir parce que son message a été entendu. Il a tellement eu un impact sur les habitants de Ninive que ces derniers se sont repentis de leurs mauvaises actions et ont imploré la miséricorde divine. Leur humiliation a conduit l'Éternel à leur pardonner et Jonas en est malade à mourir. Il faut aussi ajouter que comme Élie, Jonas était exténué car ces dernières semaines avaient été particulièrement rudes. Il a commencé par tourner le dos à l'Éternel, ce qui a dû être émotionnellement éprouvant, surtout pour un prophète qui est censé être un serviteur modèle. Puis, voyant qu'à cause de lui, un navire et tous les hommes d'équipage allaient mourir, il a demandé à ce qu'on le jette à la mer tout en sachant qu'il mourrait. Ensuite, il s'est retrouvé happé par un animal marin. Toutes ces aventures ont dû le vider de toutes ses forces. Ce n'est pas tout. À peine est-il dégurgité par le poisson sur la terre ferme que l'Éternel lui tend à nouveau le même ordre de mission que précédemment, ce qui veut dire un périple de 900 kilomètres. Pour finir, il voit son pire cauchemar se réaliser. Ninive ne sera pas détruite. Tout ça fait beaucoup pour un seul homme. Élie et Jonas ont tous deux vécu une période particulièrement agitée et stressante, et comme de surcroît ils étaient chacun convaincus de l'inutilité de leur ministère, on comprend qu'ils aient été épuisés et donc facilement en proie à la dépression. Élie œuvrait pour la restauration spirituelle des Israélites du Nord, et Jonas pour la destruction d'un peuple païen. Étant donné que ni l'un ni l'autre n'a vu ses espérances se réaliser, ils sont tous les deux amèrement déçus, voire désespérés. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient demandé à mourir. Je continue le texte. L'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Verset 4. Cette question est une forme de rhétorique qui signifie « Jonas, tu n'as aucune bonne raison d'être en colère. » Au lieu de se fâcher contre son prophète, Dieu se montre plein de sollicitude à son égard, comme un père envers son enfant qui fait un caprice. Je continue le texte. Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous à l'ombre en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Verset 5. En toute probabilité, cette phrase est une parenthèse destinée à rappeler un fait qui a déjà eu lieu. À peine Jonas avait-il fini de faire le tour de la métropole de Ninive avec son message de jugement, que les gens étaient tous vêtus de sacs et s'humiliaient plus bas que terre devant l'Éternel. C'est alors que Dieu a révélé à son prophète qu'il pardonnerait aux habitants de Ninive. À cette nouvelle, Jonas est allé s'installer à l'est de la ville, où se trouvaient de hautes collines, d'où on pouvait observer tout ce qui se passait dans la plaine. Bien qu'il sache pertinemment que l'Éternel a fait grâce aux habitants de Ninive, Jonas espère encore. Il avait annoncé « Encore 40 jours et Ninive est renversée ». Maintenant, il attend la fin de cette période pour voir si Dieu ne va pas changer d'avis et rayer de la carte cette agglomération assyrienne. Le moins qu'on puisse dire est que Jonas a la tête dure. Pour passer le temps et surtout pour se protéger un peu du soleil qui lui tapait sur la tête, Jonas s'était fabriqué une hutte avec des branchages entrelacés, mais comme elle n'avait guère de feuilles, elles étaient peu efficaces contre le soleil. Non seulement le prophète est furieux parce que Dieu veut pardonner aux Assyriens, mais en plus il souffre de la chaleur torride. Après avoir dit à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» l'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 6. Ici encore, on retrouve le mot « grand ». Tout comme l'Éternel avait fait venir un poisson pour sauver Jonas de la noyade, il fait venir un ricin pour son confort afin de lui faire de l'ombre parce que les branchages avaient rapidement séché. Le ricin est une plante qui porte de grandes feuilles palmées semblables à celles de la vigne. Il grandit de 30 cm par jour et selon la variété, il peut atteindre une hauteur de 4 à 10 mètres très rapidement et donc ressembler à un arbre. L'une des variétés a des feuilles énormes et le plant devient gigantesque. Mais comme il est dit plus loin qu'elle a poussé en une seule nuit, cette croissance spectaculaire relève évidemment d'une intervention miraculeuse. Le dieu de la mer qui a pourvu à un animal marin pour sauver son prophète de la noyade est aussi le dieu de la terre ferme et de la végétation. Au fur et à mesure que le ricin poussait, ses feuilles couvraient de leur ombre la cabane de Jonas et amélioraient son confort, ce qui eut un effet radical et surprenant sur son état d'âme. En un clin d'œil, Jonas oscille d'un extrême à l'autre, de la dépression à une joie exubérante. Ces sautes d'humeur sont peut-être dues au fait que Jonas semble toujours être seul. Alors que les prophètes Élie et Élisée étaient secondés par un serviteur, une sorte d'aide de camp, Jonas n'a personne qui l'accompagne. Pour aller à Ninive, il s'est probablement joint à une caravane qui allait dans cette direction. Ensuite, c'est seul qu'il a fait le tour de la ville, et maintenant il est encore seul sous cet abri de fortune qu'il s'est construit. Alors quand ce ricin est apparu, il est devenu instantanément son meilleur ami et l'a rempli de joie. Quelqu'un qui souffre de la solitude éprouve le besoin de s'attacher à un animal familier, et s'il n'en possède pas un, ce sera une plante ou un objet, et il lui parlera comme si c'était un être humain. Il n'est pas rare d'entendre marmonner les vieilles personnes qui vivent seules parce qu'elles ont besoin de parler à quelqu'un ou à quelque chose. Je continue le texte de Jonas. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin de sorte que le ricin se dessécha. Verset 7. Jonas a profité de l'ombre du ricin pendant une journée entière. Mais c'est terminé. Avant que le soleil ne se lève, un ver est envoyé. Sa mission, détruire le ricin, la plante qui a fait la plus grande joie de Jonas, afin qu'il n'ait plus de protection contre le soleil brûlant. Cette action de l'Éternel n'est pas tant pour incommoder son prophète que pour lui donner une bonne leçon. Je continue. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Verset 8. On a l'impression d'entendre un écho parce que c'est la deuxième fois que Jonas dit « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Tout comme l'Éternel a fait venir un grand poisson, un ricin, puis un ver pour le détruire, maintenant c'est un vent brûlant qu'il fait venir. Dans chaque cas, c'est le même verbe hébreu qui est utilisé. Ces passages montrent bien la souveraineté absolue du Créateur sur tous les éléments de la nature. Dès que le soleil a commencé à taper durement sur la tête de Jonas, l'Éternel met de l'huile sur le feu, pour ainsi dire, en ordonnant à un vent brûlant de se joindre au soleil pour rendre le prophète le plus inconfortable possible. Ce vent d'est est le sirocco. Il vient du désert et dessèche toute végétation sur son passage. Il en existe deux sortes, tout aussi dévastateurs l'un que l'autre. Le premier est violent et chargé de poussière et de sable. Le second est calme, mais une véritable fournaise qui brûle tout ce qu'il touche. Le sirocco apparaît plusieurs fois dans les Écritures pour signifier un jugement de Dieu. Lorsque Jonas était sur le point de se noyer, il a suffi d'une seule intervention divine pour le ramener à la raison et lui apprendre à obéir. Mais maintenant que Dieu essaye de lui enseigner la compassion pour les habitants de Ninive, trois miracles consécutifs ne l'ont toujours pas ramené à de meilleurs sentiments envers eux. Jonas a vraiment la tête dure, mais elle risque de fondre. En effet, comme il se trouve sur une colline à l'est de la ville, il n'a strictement rien pour le protéger et est donc exposé à toute la force de ce vent brûlant. La destruction du ricin est significative parce que Jonas comprend qu'il ne doit pas rester planté là à attendre la réalisation de son souhait qui est la destruction de l'agglomération de Ninive. Il doit se rendre à l'évidence que Dieu a pardonné à ses habitants et qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Comme il est toujours aussi intolérant, cette tournure des événements attise encore davantage sa colère. Son dépit, mêlé à sa souffrance physique, font qu'il veut en finir avec la vie. Décidément, il déraille complètement le prophète. Je continue le texte. Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Verset 9. Voilà un second écho parce que précédemment, quand Jonas a dit « La mort vaut mieux pour moi que la vie », l'Éternel lui a répondu, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Décidément, on tourne en rond. Cependant, l'Éternel n'est pas fâché et parle avec tendresse à son prophète qu'il essaye de raisonner. Malgré trois interventions miraculeuses, comme je l'ai dit, l'attitude de Jonas n'a pas évolué d'un iota. Après avoir accordé sa grâce à Ninive, l'Éternel a détruit le ricin alors que Jonas aurait voulu le contraire, la destruction de Ninive et la conservation de la plante. Jonas est très soucieux de son confort, mais n'a que faire de la vie des Assyriens. Alors dès que le ricin a séché, il a sombré dans la dépression et il y reste. L'Éternel voudrait que son prophète se rende compte que parce qu'il est entièrement centré sur lui-même, ses priorités sont totalement inversées. Ce qui est important est que les Assyriens aient la vie sauve, tandis que le petit confort personnel de Jonas est secondaire. Pour ce prophète, la vie a été une suite de surprises et de frustrations. Il essaye de fuir l'Éternel et il se trouve coincé sur un bateau sur le point de faire naufrage. Il accepte alors sa fin inévitable et il est sauvé par un animal marin. Quand l'Éternel lui offre une seconde chance, il obéit, mais son succès l'embarrasse et le frustre. Il est furieux, alors Dieu le taquine, ce qui intensifie encore sa colère. À la question de l'Éternel, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas est effronté de répondre, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Cette réplique rappelle un peu les paroles imprudentes de Job à l'Éternel. Cependant, grâce à l'exemple de ces deux hommes, on voit que Dieu préfère de loin l'expression rude mais franche d'un sentiment réel aux formes affectées d'une piété de convention. Je finis le livre de Jonas. Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Verset 10. Ces 120 000 personnes sont des enfants qui n'ont pas encore la capacité de discerner entre le bien et le mal. Il s'ensuit que la population de la métropole de Ninive devait être voisine de 600 000 personnes. La dernière réplique de l'Éternel donne la leçon du livre. Si Jonas déplore la perte du ricin qui ne lui a rien coûté, à combien plus forte raison Dieu devrait-il se soucier d'éviter la perte des habitants de Ninive et même de celle de leurs animaux? Le psalmiste écrit « L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures ». Une paraphrase de la réponse de l'Éternel serait « Jonas, tu es déprimé à cause du ricin qui a séché et pourtant, elle ne t'a rien coûté puisque tu ne l'as ni planté ni entretenu. Et puis, c'est une plante de bien faible valeur comparée aux hommes et aux animaux qui sont dans cette grande métropole. Je les ai créés et chéris toutes ces années. Ninive est importante à mes yeux et je pourvois à ses besoins jour après jour. Ton chagrin n'est rien comparé au mien quand j'ai envisagé de la détruire. » Nous n'avons pas la réponse de Jonas. Le récit s'arrête brutalement et il appartient à l'homme de choisir d'accepter la pensée et le sentiment de Dieu ou de persister dans sa propre volonté. De toute évidence, le prophète a fini par comprendre la leçon que l'Éternel voulait lui enseigner. Il a reconnu qu'il avait erré dans ses pensées et que l'Éternel est juste dans tout ce qu'il fait. Puis il a écrit son autobiographie basée sur l'histoire fantastique qui lui est arrivée. Ce récit enseigne que l'Éternel règne sur toute sa création, mais surtout qu'il se soucie de toutes ses créatures et veut que tous les hommes soient sauvés. Jonas, quant à lui, a personnellement appris l'obéissance et la compassion, une leçon que chaque croyant doit apprendre.